le mouton est l'un des animaux les plus anciennement domestiqués par l'homme. Sans entrer dans la querelle de spécialistes, on peut admettre qu'avec le chien, il se dispute la première place. Quoi qu'il en soit, il est le mammifère domestiqué le plus répandu sur la planète. La domestication a tellement façonné le mouton qu'il est incapable aujourd'hui de vivre par lui-même. Buffon, déjà en son temps, attirait l'attention sur cet aspect. Dès le néolithique, l'homme a sélectionné ses animaux, opéré les croisements qui vont se multiplier à l'initiative des physiocrates à partir du XVIIIe siècle. Les différentes études des spécialistes mettent en évidence un lien entre le mouton et les populations nomades. Il est certain que les ovins peuvent suivre l'homme dans ses déplacements, à la différence d'autres animaux, comme le porc, par exemple. Il semblerait, selon les historiens, qu'une partie des tabous sur le porc viennent de ce que cet animal, chez les peuples nomades, ne peut se déplacer et est donc défavorisé. En fait, le mouton est resté l'animal emblématique des populations nomades dès que le réchauffement du climat rendit le franchissement des Pyrénées moins dangereux, des contacts économiques basés le plus souvent sur l'économie pastorale ovine et la transhumance se seraient établis avec le versant méridional espagnol. Ces contacts actifs entre ces civilisations pastorales s'organisèrent progressivement et devaient déboucher avec le temps et les siècles sur les liées passerelles et sur les relations régulières cristallisées sous forme de foires fixes. Les foires de Saint-Girons au confluent du Salat et du Lesse et celles de Seix, articulées avec celles du Val-d'Aran et du Haut-Paliars, ont, dans ces circonstances, connu leur origine. Nous soulignerons aussi le lien étroit qui existe entre les troupeaux de moutons et les problèmes de fortune ou de richesse, sur le plan matériel, donc économique et symbolique. On peut alors réfléchir sur tout ce que le mouton fournit à l'homme, comme la viande et la laine, le lait, le plus fortement consommé jusqu'au milieu du XIXe siècle en Europe occidentale, serait le lait de brebis. De même, la laine a joué un grand rôle dans l'activité de l'homme. Durant des siècles, l'industrie textile fut une activité motrice de la vie économique. Dans l'organisation de la vie sociale, cette activité met en évidence le rôle des femmes. On pourrait étudier aussi les systèmes symboliques qui s'articulent entre les matières textiles comme le lin et la laine de mouton. Là aussi, on retrouve la dualité pure-impure. Mais évoquons aussi les autres produits que l'homme tire des ovins. Suif, peau, boyaux, os, cornes, fumier. Bref, tout cela explique l'existence d'un lien étroit dans le vocabulaire entre les mots qui désignent le petit bétail ovin et les mots qui évoquent la richesse, l'argent. L'exemple le plus pertinent est celui du latin. Le mot latin pecus, qui veut dire bétail, troupeau, et plus spécialement troupeau de moutons, donne naissance au mot pecunia, qui signifie, dans un premier temps, richesse en bétail, puis richesse en soi. Le même, dans les langues germaniques et anglo-saxonnes, il existe des parentés lexicologiques. On peut évoquer aussi la corde d'abondance, l'idée de richesse souvent exprimée d'un point de vue iconographique par une corne de bélier. Abordons aussi de façon rapide les liens entre cet animal, le mouton, et les pratiques cultuelles depuis les civilisations méditerranéennes les plus anciennes jusqu'à la symbolique religieuse la plus contemporaine. Rappelez-vous l'importance de l'espèce ovine dans tous les sacrifices antiques et dans les diverses religions. Les agneaux et les béliers, les pauvres, payaient un lourd tribut. En fait, quand on parle de troupeaux d'ovins dans l'antiquité grecque, romaine et biblique, il s'agit presque toujours de troupeaux de brebis, d'où le synonyme dans les langues anciennes entre mouton et brebis. Et là, notre très cher ami François Chevillon de Seix, berger à Esbines et sur les estives de Soulas, est fort attaché à l'appellation de troupeau de brebis et au terme même de brebis. Le christianisme, reprenant à son compte une tradition antique, a fait de l'agneau le symbole de l'innocence, de la douceur, de la pureté. Sa blancheur immaculée en fait la victime idéale. Aussi l'offre-t-on en sacrifice aux divinités. Les historiens de la vie culturelle et culturelles ont souligné l'ambivalence de l'attitude des populations à l'égard du berger. Les mythologies antiques, la culture gréco-romaine ont mis en exergue l'état de nature pleine de félicité de ces bergers, des bucoliques. Ce phénomène va s'amplifier avec le romantisme. Cependant, n'oublions pas que le berger fut longtemps synonyme de pauvreté, de dépouillement, de solitude. On a souvent opposé les rois et les bergers. Alors, ce soir, pourquoi aborder dans le cadre de notre chronique couseranaise cette étude symbolique des brebis en cette période caractérisée par la réintroduction de l'ours dans nos montagnes? Ce prédateur, l'ours, normalement peu agressif par rapport à l'homme, suscite bien des réactions dans les milieux pastoraux et agricoles. Les troupeaux de brebis, principales victimes de ce fauve depuis toujours protégé par des chaînes de défense, véritables molosses, suscitent bien des soucis aux autorités qui indemnisent. Troublés par le bruit, n'ayant pas de véritable refuge dans ce milieu de montagne sillonné par les routes et les sentiers accessibles aux hommes, les ours cherchent leur tranquillité dans la fuite. Aussi, des individus erratiques, c'est-à-dire sans habitation fixe, sont parfois aperçus dans des altitudes relativement basses, en particulier dans les environs de Saint-Eustache parfois. L'antagonisme entre l'homme et cet animal s'aggrave en l'absence d'une tradition récente de coexistence. Rappelez-vous le contexte d'agitation sociale grave lors d'une tentative de réintroduction dans la région d'Arbas et aussi des différentes manifestations qui ont émaillé la vie de la capitale couseranaise, je veux parler de Saint-Girons. Dans ce contexte, le métier de berger est devenu très difficile, parfois même harassant, dans la mesure où il devient impératif de surveiller ces immenses troupeaux peuplant les hautes terres durant la belle saison avec cette épée de Damoclès que constitue l'ours. Mettons-nous à la place de Martin, ce pauvre ours confronté à ses proies faciles, nombreuses, tentantes et à portée de main, si l'on peut dire. L'État, les collectivités locales, les associations de défense et les bergers ne parviennent pas à s'entendre sur le principe de la réintroduction de l'ours. En fait, ce problème semble insoluble dans la mesure où il n'est pas seulement économique, écologique, mais dans la mesure aussi où il est symbolique. Trop de représentations passionnelles entachent l'ours. Cet ours qui tue les brebis est le même dépositaire de symboles à la fois religieux, psychologiques, économiques. Symbole que nous avons vu en début de chronique. Le mouton s'adresse à des régions intimes de nous-mêmes, tissées par une éducation gréco-romaine, puis judéo-chrétienne pour nos civilisations occidentales. Pensez à la tonte des brebis qui scande le temps dans d'immenses régions du monde, cette tâche délicate demandant du doigté, accompagnée de nombreux rites sociaux. Il suffit de se rendre à la Soumer, il suffit de se rendre vers Saint-Thème pour s'apercevoir que ce rituel de la tonte a encore beaucoup d'importance. On prenait l'animal en lui liant les quatre pieds afin de le tondre au plus ras. Il ne fallait rien perdre, bien que la modernité, sous-tendue par des impératifs de rentabilité, ait rendu cette opération un peu plus brutale, disons. Enfin, le terme est un peu fort. Mais elle reste, à n'en pas douter, une étape importante du cycle pastoral. Intimement liée à la fête, à l'abondance, la brebis accompagne les moments les plus joyeux de la vie. Saint Jean-Baptiste lui-même s'inscrivant dans la continuité en proclamant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » a laissé une empreinte forte. Le fond de légende, les récits transmis de génération en génération lors des veillées ont fait de l'ours un être redoutable s'attraquant à la brebis. C'est fait, manipulé, faisant sourde à la surface du psychisme bien des représentations sur les brebis. Ces brebis, signifiant, comme nous l'avons vu, innocence, pureté, richesse, peuvent nous pousser parfois, de façon inconsciente, à être réservés par rapport à la réintroduction de l'espèce oursine dans nos montagnes. Voilà de quoi méditer, chers amis.